Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 31 mai, un appel à témoins lancé du côté de Lardin-Saint-Lazare en Dordogne. L'homme recherché depuis 36 heures dans une zone boisée fait 1m83, physique athlétique. Cet ancien militaire est lourdement armé. Nous serons en ligne avec la maire de la commune, Francine Bourrat. La vaccination ouverte à tous à partir de 18 ans. Depuis ce matin, il n'y a plus de critères d'âge ou d'état de santé. 28 millions de Français sont potentiellement concernés. Dans RTL Midi aussi, les Républicains toujours plus divisés. Guillaume Pelletier, invité du grand jury hier, affirme porter les mêmes convictions que Robert Ménard, proche du Rassemblement National. Il s'est fait rappeler à l'ordre. La campagne officielle pour les élections régionales débute, elle, aujourd'hui. Les raisons du divorce entre Zidane et le Real Madrid. Zizou dénonce un manque de confiance de la part de ses dirigeants. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Soleil et chaleur, un lundi comme on les aime.
Exactement, avec quand même souvent du ciel tout bleu toute la journée sur les trois quarts de la France. Il y a les trois quarts parce que c'est vrai qu'en montagne, ça a déjà été un peu le cas ce matin, il y aura un risque orageux. Alors sur les Pyrénées, sur l'Auvergne, les Alpes, encore le relief Corse. C'est vrai qu'en fin de journée, il y aura donc ce risque d'orage avec des averses. Évidemment, ça pourrait même déborder en plaine sur une partie de la vallée du Rhône. Et puis ailleurs, donc sous ce ciel bleu, les températures vont grimper. Elles seront largement dans les moyennes. 20 à 24 degrés, pas moins, dans la moitié nord ou encore près de la Méditerranée. Et 25 à 30 degrés même dans le sud-ouest. Les 30 degrés qui pourraient être dépassés autour de la vallée de la Garonne.
Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, donne 6 mois au préfet pour identifier des zones favorables afin d'implanter des éoliennes. Leur capacité doit doubler dans notre pays d'ici 2028. D'où la question du jour sur RTL.fr. Les éoliennes gâchent-elles le paysage? Vous êtes 71% à nous dire oui. Il y a 25% de non. Le débat s'annonce assez intéressant au 32-10. Bonjour Pascal Proulx.
Bonjour Christelle. Elle le gâche. Objectivement, j'ai envie de dire, elle ne l'embellisse pas. Mais c'est peut-être justifié. Et voilà. C'est cela qu'il faudra aussi poser comme question. Autre sujet du jour, plusieurs centaines de personnes qui participaient à une procession catholique samedi en hommage aux martyrs de la commune ont été violemment prises à partie, ils ont été agressés, certains blessés par des groupes d'extrême gauche. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est le silence médiatique. C'est-à-dire que peu de gens en parlent, des réactions à droite massivement, et Gérald Darmanin qui a également tweeté, mais il me semble que c'est un sujet intéressant. Est-ce que lorsque on est catholique, finalement, en France, on peut se faire agresser en toute impunité. Autre question, et vous l'avez dit, ce seront les éoliennes. Le grand jury RTL hier, et vous l'avez évoqué, Guillaume Pelletier, qui affirme porter les mêmes convictions que le maire de Béziers. Ça, c'est une interrogation qu'on pourra également avoir. Et puis, que représente pour vous la radio? Quels sont vos souvenirs d'émissions, notamment sur RTL? La radio fête ses 100 ans. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
La vaccination pour tous les adultes à partir d'aujourd'hui finit les critères d'âge ou d'état de santé. Ça représente 28 millions de personnes éligibles avec en face 500 000 rendez-vous disponibles chaque jour. Ça peut créer un embouteillage, mais la France attend 76 millions de doses au mois de juin. Agathe Landais, vous avez rencontré de nouveaux vaccinés en plein Paris.
Exactement, comme Marie, 20 ans, qui sort de l'Hôtel Dieu, donc à Paris, où elle vient de recevoir sa première dose de vaccin.
Bah, ça va, c'était rapide, 15 minutes d'attente et après vaccin, et après 10 minutes pour voir que tout se passe bien, et c'est bon. J'attendais un petit peu parce que niveau effet, mais en fait là, je m'en fiche, je me conforme à tout le monde. Je veux juste revenir à la vie normale et s'il faut se faire vacciner pour ça, voilà. Et après, voilà, ça limite les risques, donc c'est aussi pas mal.
Se vacciner dans l'espoir de retrouver un peu plus de liberté, c'est aussi ce qui a motivé Quentin, 24 ans, à prendre rendez-vous.
Au moins c'est fait et au moins je peux me dire que dans les prochains mois, s'il y a des événements que je pourrais y accéder, sans forcément faire un test PCR avec le QR code, ça peut être plus accessible, plus facile. Donc du coup, je suis content, c'est une chose de faite.
Mais Sarah, 32 ans, est-elle bien moins optimiste?
On ne sait pas trop si ça va fonctionner vraiment ou pas, mais parce que pour l'instant, on est obligé de porter le masque, il y a toujours des restrictions, donc on verra. Après, je me dis peut-être que ça m'ouvrira la possibilité de voyager. Et puis, je me dis si ça peut diminuer le nombre de cas, etc. C'est aussi pour les autres qu'on le fait.
Ces jeunes qui se vaccinent donc pour se protéger, mais surtout pour protéger les autres. Et tous ont l'espoir que ça leur rendra rapidement leur vie d'avant.
Au reportage à Gatlandais. Et l'épidémie régresse. 8500 cas positifs recensés hier, 16700 malades à l'hôpital. Et on est passé en dessous de la barre des 3000 personnes en réanimation. C'est le meilleur chiffre, entre guillemets, depuis fin janvier. 7 hélicos, des véhicules blindés, 300 gendarmes. La traque continue dans une zone escarpée et boisée au Lardin-Saint-Lazare en Dordogne. Un ancien militaire lourdement armé, toujours en fuite depuis plus de 24 heures. Philippe de Maria, vous êtes sur place pour RTL et Thierry Dupin, c'est son nom, fait désormais l'objet d'un appel à témoins.
Exactement, la photo disponible sur le site rtl.fr montre un homme jeune, regard clair, de type caucasien, coupe militaire, mais barbe longue. Il mesure 1m83, s'ensuit un numéro de téléphone pour les riverains qui auraient des informations permettant de le localiser. Il est qualifié d'individu dangereux. Les hommes du GIGN savent à qui ils ont affaire et ils ne sous-estiment pas leur adversaire, ancien soldat d'un régiment d'infanterie, le général Pétillot, patron ici du dispositif.
On a face à nous un individu qui est aguerri, endurant, qui a l'habitude de vivre pendant plusieurs jours en autonomie. Il a fait dans sa formation militaire, il a pu rester plusieurs semaines sur le terrain. Donc c'est voilà, quelqu'un qui manifestement est capable de rester longtemps, qui également s'est peut-être préparé aussi. Il avait un sac, donc on peut imaginer qu'il ait pu préparer un certain nombre de choses dedans.
Et Thierry Dupin est toujours activement recherché pour deux tentatives d'homicide. D'abord sur le petit ami de son ex-conjoint, puis sur des gendarmes sur lesquels il a tiré hier. Il n'a encore blessé personne dans sa cavale.
Philippe de Maria en direct. On rappelle que cet homme a déjà été condamné 4 fois pour des violences conjugales sur son ex-compagne, qui est aussi la mère de ses 3 enfants, et que depuis octobre 2020, il porte un bracelet électronique. Et nous sommes en ligne avec Francine Bourrat, la maire du Lardin-Saint-Lazare en Dordogne. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que ça change pour vous, cet appel à témoins ce matin?
Ben, ça va peut-être aider à le retrouver plus rapidement. Donc voilà, on a eu quelques appels là déjà ce matin. Donc j'espère que ça va porter ses fruits.
Vous avez des appels à la mairie? Non, pas de votre côté.
On a des appels à la mairie. Ben, les gens appellent, vous savez. Voilà, on a eu des appels ce matin effectivement pour des gens qui ont vu des personnes qui ressemblaient plus ou moins.
Ouais. Les 800 habitants de votre commune sont bouclés depuis plus de 24 heures maintenant. Concrètement, comment ça se passe?
Alors, 1800 habitants.
Oui, pardon.
Comment ça se passe? Ben, c'est compliqué. Bon, alors, le confinement, on commence à en avoir l'habitude. Oui. Mais celui-là, il n'était pas prévu. Donc, c'est compliqué parce que ben, les gens ont besoin d'aller travailler. Les gens ont peur. Certains ont peur aussi. Donc, on est là depuis ce matin au téléphone pour rassurer la population, pour essayer d'expliquer. Les gens veulent rentrer parce que hier, ils étaient partis en week-end. Ils veulent rentrer sur la commune. Comment on fait? Il y a des itinéraires bis qui sont mis en place. Voilà, il y a des gens qui ont plus de courses ou très peu encore pour la journée, mais pas plus. Voilà, donc on répond à tout ça depuis ce matin.
Donc ils ne peuvent ni entrer ni sortir actuellement, hein.
Oui, c'est ça, comme hier. Les consignes sont exactement les mêmes.
Et les écoles sont fermées?
Les écoles sont fermées, les commerces sont fermés, toute la vie économique, les entreprises sont fermées également.
Et c'est compliqué, j'imagine, aussi pour les personnes âgées qui ont besoin de recevoir leur aide à domicile ou leur infirmière?
Non, ça a été mis en place, donc c'est vu avec la communauté de communes. Et donc, depuis hier soir, donc, les services ont pu travailler et les personnes ont pu recevoir, notamment celles qui étaient dans le besoin, ont pu recevoir les soins et le portage de repas quand
ils en avaient besoin. Et vous, madame la maire, vous essayez d'organiser le ravitaillement, là?
Non, nous ne pouvons pas organiser le ravitaillement de la population, déjà pour la bonne et simple raison que nous sommes, nous aussi, contraints aux mêmes difficultés de confinement.
Oui.
Mes adjoints sont obligés de passer. J'ai des adjoints qui n'ont pas pu venir en mairie ce matin, hein, à cause des barrages. Mmh. Voilà, donc on est exactement comme la population et c'est très compliqué. Aujourd'hui, les commerces sont fermés. Voilà, donc j'espère que dans les heures qui vont venir, cette situation sera terminé et qu'on pourra revenir à une vie normale, mais pour l'instant, et alors si ça perdurait, il faudrait bien effectivement se trouver, donc dès ce soir, j'attends les dernières annonces du préfet, mais il faudra, si ça continue, trouver des solutions là, effectivement. Mmh. Aujourd'hui, bon, on considère que les gens ont toujours quelques conserves, ont toujours un petit peu de réserve, mais ça pourra pas aller plus loin, effectivement.
Les habitants sont très angoissés, qu'est-ce qu'ils vous disent?
On a de tout. Il y a des gens, effectivement, qui sont très, très angoissés, qui ont peur, voilà, qui ferment, qui se barricadent chez eux. Voilà. Puis, il y en a d'autres qui comprennent pas. Donc, qui comprennent pas ce déploiement de force de police et pas de résultats. Donc, il y a tout un tas de questionnements. Mmh. Et on essaie de répondre au mieux à toutes ces questions.
De questionnements et un peu d'agacement aussi et un peu d'angoisse. Merci beaucoup, Francine Bourra, d'avoir été l'invitée de ce journal. Merci. On fait une pause dans un instant. On évoque les éoliennes. Leur nombre doit doubler d'ici 2028.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
La France veut faire du vent. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, veut doubler les capacités des éoliennes d'ici 2028. Elle donne 6 mois au préfet pour identifier et cartographier des zones favorables. Dans une tribune publiée ce matin dans le Figaro, Stéphane Bern dénonce un diktat et une négation de l'écologie. Le débat est souvent tendu entre les pour et les contre. Et on vous pose la question sur RTL.fr. Les éoliennes gâchent-elles le paysage? Quels sont vos arguments, Pascal Praud?
C'est vrai que ça les gâche. Objectivement, c'est moche. Là-dessus, il n'y a même pas de discussion. Ça n'embellit pas un paysage de voir une éolienne dans un champ.
Joli.
Vous trouvez que c'est joli?
J'ai pas dit moi, je dis il y a des personnes qui trouvent ça très joli.
Il y a sûrement des gens qui trouvent ça joli, mais globalement, vous conviendrez. Bon. Et je trouve que ce n'est pas forcément la question. La question, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est préférable, cette énergie, à d'autres énergies? Moi, j'observe simplement que le nucléaire, en France, depuis 50 ans, on n'a pas un souci sur le nucléaire. C'est moins cher. C'est, me semble-t-il, plus écologique. Mais pour des raisons idéologiques, on a supprimé ou on a mis de côté cette énergie-là. Donc, il faut peut-être réfléchir. Et effectivement, qu'on a le sentiment avec ces éoliennes. On prête un mot à Emmanuel Macron. Il aurait dit « faut arrêter ». Avec les éoliennes, il se baladait dans un hélicoptère, il voyait ça de haut. Il a dit qu'il faut arrêter parce qu'effectivement, c'est pas beau. C'est tout ce qu'on peut dire.
Bon, faisons le point avec vous, Valentin Boisset. La France doit de toute façon porter à 15% la part d'énergie éolienne dans sa production d'électricité d'ici à 2028.
Oui, et pour le moment, nous sommes en retard. Il y a 5 fois moins d'éoliennes en France qu'en Allemagne. Le gouvernement veut donc accélérer. On en compte 8000 actuellement qui produisent 8% de l'électricité française. La circulaire encourage donc les préfets à identifier des zones favorables qui pourraient accueillir des éoliennes. Et ces 6 mois de délai vont servir à consulter la population. Barbara Pompili met l'accent, par exemple, sur la protection de l'environnement et des paysages. L'idée, c'est de maintenir les éoliennes à distance des habitations. L'objectif, c'est donc que le parc français monte à 15 000 éoliennes d'ici 2028. Alors, est-ce que ça sert en termes d'économie d'énergie? Eh bien, avec le parc actuel, le gouvernement estime que 15 millions de tonnes de CO2 sont économisées chaque année. Ça équivaut à la pollution émise par 8 millions de véhicules. Alors, avant d'installer ces éoliennes, se pose la question de l'acceptabilité. L'Institut de Sûreté Nucléaire, en 2021, a publié une vaste étude incluant ce sujet. 82% des Français ont une bonne image des éoliennes. 41% accepteraient de vivre près de l'une d'elles. Et si l'on compare avec une centrale nucléaire, par exemple, seuls 16% des Français accepteraient d'en être le voisin.
Et sur ce sujet, merci Valentin. Vous pouvez nous appeler au 3210. Les Républicains, plus que jamais déchirés entre Emmanuel Macron et la droite de la droite. Après le pataquès autour de Renaud Muselier en région PACA avec la majorité présidentielle, Guillaume Pelletier, le numéro 2 du parti, affirme porter les mêmes convictions que Robert Ménard, le maire de Béziers, proche du Rassemblement national. Et il s'oppose à l'idée d'un front républicain. Il s'est fait rappeler à l'ordre hier soir. Et de fait, il se retrouve très isolé, Marie Mollet.
Oui, cette nouvelle sortie a ulcéré ses collègues de LR, quasiment tous. Et depuis ce matin, il ne se prive pas de le faire savoir. Pelletier est prêt à tout pour un coup de pub. Se lâche un cadre, c'est un charlot, un pitre qui ne travaille pas. Même les tenants d'une droite forte se gardent bien de lui venir en aide, comme le député LR Julien Aubert.
Par exemple, dans ma région, on a tout un débat sur le fait d'avoir tendu la main à En Marche. C'est pas pour tendre la main de l'autre côté en même temps, au risque de laisser croire que finalement il y aurait aux Républicains deux camps, ceux qui veulent s'allier avec Macron et ceux qui veulent faire l'union des droites. Ça peut donner l'impression d'une droitisation, alors que les Républicains doivent trouver leur propre voie et arrêter de se positionner par rapport à l'extérieur.
Et même irritation dans le camp de Xavier Bertrand, dont Guillaume Pelletier est un soutien déclaré. Il nous met dans la mouise, regrette un député bertrandiste. Robert Ménard, c'est kiff-kiff bourricot avec le RN, lâche un autre. Xavier Bertrand n'est pas du tout sur cette ligne. Alors même si Guillaume Pelletier s'est livré à un exercice très solitaire, sa sortie brouille encore un peu plus le positionnement des LR coincés entre En Marche et le RN. Un député résume, tant qu'on n'aura pas de candidat clair pour 2022 qui fasse rentrer tout le monde dans le rang, on aura encore ce genre de raté.
Et Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, d'habitude assez réservé sur la politique, s'est indigné ce matin sur RTL.
Très clairement, pour la CFDT, c'est clair. Qui que ce soit en face de Marine Le Pen ou de Rassemblement National au second tour, il faudra éviter que le Rassemblement National soit élu, et dans ce cas, il faudra voter pour cette personne. On est dans une période où, malheureusement, un certain nombre de digues sautent, et donc il faut, à un moment donné, que les responsables publics, j'en fais partie, mais il y a les politiques, il y a d'autres responsables économiques, etc., aient une parole suffisamment claire pour qu'on arrête le délire. Il y a un certain moment, c'est halte au feu des propositions à la con, halte au feu le sentiment qu'il faut monter les uns contre les autres. On a le droit d'avoir dans ce pays, les Français ont le droit d'avoir un débat démocratique sain, où l'enjeu numéro un, c'est pas disqualifier son adversaire, c'est de faire des propositions concrètes, constructives. C'est ça le débat démocratique.
Halte au feu, dit Laurent Berger, qui était interrogé par Alba Ventura ce matin sur RTL. En tout cas, la campagne officielle pour les élections départementales et régionales du 20 et 27 juin s'ouvre aujourd'hui. La durée de la campagne a été allongée d'une semaine, car la crise sanitaire complique singulièrement les choses, Benjamin Sportouche.
Oui, alors vous l'avez vu, Christelle, sur vos marchés, hein, le bon vieux tractage est au rendez-vous, même si c'est pas facile aujourd'hui de convaincre les passants de prendre des papiers de la main à la main. Alors les porte-à-porte, eux, sont autorisés, mais les candidats ne peuvent pas recevoir dans leur permanence, et surtout interdiction des réunions en plein air de plus de 50 personnes. C'est un brin dommage quand même tout de même avec ce beau temps, mais on peut se rattraper, et tant pis quand même pour la logique, avec des réunions dans des lieux fermés, en respectant les jauges comme au spectacle, 35% aujourd'hui, puis 65% à partir de la semaine prochaine. Une compensation tout de même, Christelle, le plafond de dépenses est augmenté de 20%, ça peut aider si on veut recourir au numérique. D'ailleurs, les professions de foi des candidats seront publiées gratuitement sur le site du ministère de l'Intérieur.
Et dans ce contexte, Benjamin, on redoute plus que jamais une montée de l'abstention sur un scrutin traditionnellement boudé par les électeurs.
Tout à fait. En 2015, c'était 50% de participation à un électeur sur deux. C'était pire encore en 2010. L'abstention, cette fois-ci encore, c'est la grande inconnue. D'ailleurs, les sondeurs ne se mouillent pas beaucoup. Et c'est la grande inquiétude des partis. À qui profitera-t-elle cette abstention? On le rappelle, hein, parce qu'on nous pose encore beaucoup la question. Le premier tour, c'est le 20 juin.
Le 20 juin, oui, c'est très bientôt hein, quand même.
Mais oui, et beaucoup ne le savent pas encore.
Merci Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. Dans un instant, Zidane et le Real Madrid, les raisons du divorce.
RTL Midi. RTL Midi avec Christelle Rebière.
L'histoire d'amour entre Zidane et le Real Madrid est donc terminée. Celui qui est désormais l'ex-entraîneur du club explique enfin pourquoi. Et comme souvent dans les histoires de couple, à un moment, il y a un problème de confiance, Mathias Valton.
Oui, manque de confiance et de soutien, manque d'humanité et de mémoire, absence de projet sportif. Ce matin, dans une lettre ouverte d'une double page dans le quotidien AS, Zinedine Zidane règle ses comptes avec les dirigeants madrilènes qu'il pointe comme les responsables de son départ du Real. Il était parti sans un mot, sans une conférence de presse jeudi dernier. Sincère, amer et blessé, Zidane sort donc le bazooka pour expliquer aux supporters madrilènes les raisons de son départ. Il ne m'apporte pas la confiance et le soutien nécessaires pour construire quelque chose à moyen et long terme. J'ai été énormément blessé quand, après chaque défaite, il laissait filtrer intentionnellement dans les médias que j'allais prendre la porte si je ne gagnais pas. Pour moi, les relations humaines sont plus importantes que tout et j'aurais aimé qu'ils aient plus de mémoire. Cette lettre ouverte d'un entraîneur est une première dans l'histoire du Real Madrid et un énorme coup de massue pour le président Florentino Pérez. Preuve encore une fois que Zidane ne fait jamais rien, comme tout le monde.
Mathias Valton, Karim Benzema se dit très déçu du départ de Zizou. C'est un très grand entraîneur et sur le plan humain, c'est l'homme parfait, en tout cas avec moi. Fin de citation, c'est vrai que ces deux-là étaient assez fusionnels. Un Français, Benjamin Brière, va être jugé en Iran pour espionnage, pour des photographies de zones interdites prises avec un drone de loisir dans un parc naturel en Iran. La sœur du prisonnier affirme qu'il traversait le pays en touriste. Le ministère français des Affaires étrangères trouve cette accusation d'espionnage incompréhensible. C'est aussi la position de son avocat, Maître Vallant.
Il est désormais avéré qu'il y aura un procès pour espionnage et que donc il s'agit d'un Français qui encourt la peine de mort, ce qui ne peut qu'être une inquiétude profonde pour la famille et pour sa défense également. Aucun d'entre nous, raisonnablement, ne peut imaginer qu'il s'agisse véritablement d'un processus judiciaire, mais qu'il s'agit effectivement d'un processus politique. Eu égard à la mauvaise habitude des autorités iraniennes de se servir d'occidentaux comme monnaie d'échange, c'est pour cela que j'en dis que c'est un processus politique. Manifestement, Benjamin Brière ne peut que servir de monnaie d'échange. Personne ne peut raisonnablement imaginer que Benjamin Brière ait pu être un espion de service de renseignement. On attendait un peu d'humanité et de raison. Ces méthodes de négociation, elles ne sont plus tolérables. Il s'agit effectivement d'y mettre un terme de manière irrémédiable.
Maître Vallon avec Brice Dugénie. Une petite révolution démographique en Chine. Le pays vient de supprimer la limite de 2 enfants par couple et autorise les familles à avoir jusqu'à 3 enfants. Le dernier recensement sur 10 ans montre un vieillissement plus rapide que prévu de la population. L'an dernier, le taux de natalité était tombé au plus bas depuis la fondation de la Chine communiste en 1949.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Lui, il a 4 ans et il a déjà du cœur. Gabriel, qui habite du côté de Neuve-Maisons près de Nancy, a décidé de donner ses cheveux pour permettre de fabriquer des perruques pour les enfants malades du cancer. Et cette générosité a attiré votre attention, Yannick Collant.
Oui, surtout que c'était la toute première fois depuis sa naissance qu'il allait se faire couper les cheveux. De longs cheveux blonds de plus de 25 cm. Gabriel a grandi au Canada et là-bas, les garçons portent facilement les cheveux longs. Mais quand il est rentré en France, il a eu le droit à quelques moqueries et c'est là qu'il a eu cette idée, comme le raconte Julien, son papa.
Il en a reparlé en disant qu'à l'école, il s'était fait moquer de lui parce qu'il avait des grands cheveux et lui, ça lui plaisait, il aimait bien être comme Tarzan. Et là, on est venu à la discussion, mais tu sais, il y a des enfants aussi à l'hôpital d'enfants qui ont des cancers et eux, ils n'ont plus de cheveux. Et eux, on se moque aussi d'eux parce qu'ils n'ont plus de cheveux. Et là, dans sa tête, il s'est dit, moi, dans ce cas-là, je vais les couper et je vais les donner aux enfants qui ont peu de cheveux pour pas qu'on se moque comme moi.
Alors, ses parents lui ont quand même bien expliqué qu'il fallait être sûr que ça ne repousserait pas en 2 jours. Mais Gabriel est un petit bonhomme très décidé, comme a pu le constater Delphine, la coiffeuse.
Il était fier, en fait. Il a mis les cheveux dans l'enveloppe. C'est vraiment étonnant. Il a une sensibilité qui, c'est vrai, est un petit peu exceptionnelle pour un enfant de son âge.
Et dans l'enveloppe, avec les cheveux, Gabriel a glissé un dessin avec ce petit message pour les enfants qui n'ont plus de cheveux à cause de leur traitement. Je recommencerai.
Gabriel, fier et généreux, merci pour ce joli portrait, Yannick Collant.
Roland Garros 2021,
c'est sur RTL.
Ravi de vous retrouver, Isabelle Langer, à Roland Garros. Ah, oui, grand plaisir. Avec au programme aujourd'hui donc Federer, qui aura 40 ans cet été, et 9 Français sur les cours, à commencer par Pierre-Hugues Herbert, qui joue en ce moment.
Il est opposé, vous savez, au petit prodige italien Yannick Sinner. Sinner avait bien entamé la partie, il avait remporté facilement le premier set 6-1. Mais Pierre-Hugues Herbert a empoché la deuxième manche 6-4. Il mène 5-4, mais il y a 3 balles pour Sinner pour revenir à 5 jeux partout. Ah, il a peut-être loupé le coche, le Français, parce que il menait 5-2. Il avait double break dans cette troisième manche. Il n'a pas su conserver ce précieux avantage. Et l'Italien, tête de série numéro 18, vient d'égaliser à 5-5 dans la troisième manche. Alors que Alizé Cornet a pris la sortie à Roland-Garros, éliminée par la jeune Harmonitane, une autre Française, 23 ans, 149e mondiale, pardon. Elle l'a emporté 6-4, Harmonitane. On va suivre dans quelques minutes sur ce court Simone Mathieu, l'entrée en lice de Benoît Paire contre le Norvégien Ruud. Il va falloir garder ses nerfs.
Et à tout à l'heure, Isabelle, merci beaucoup. La radio a 100 ans et nous célébrons cet anniversaire toute la semaine, l'occasion de retrouver des voix d'RTL qui nous ont accompagnés dans les années 70-80, par exemple ce trio de femmes.
Nous allons parler de vous et de tout ce que vous aimez et nous allons essayer de vous faire connaître un peu mieux car vous êtes quelqu'un d'assez secret. On n'a pas souvent l'occasion de vous entendre parler de vous.
Miss Emeny, bonjour. Vous m'appelez, vous m'écrivez depuis 2 ans et je vous écoute tous les jours.
Georges Lautner, surnommé le tonton frondeur, en hommage bien sûr au tonton flingueur.
Voilà, vous aurez sans doute reconnu dans l'ordre Anne-Marie Pesson, Ménie Grégoire et Evelyne Pagès, des voix et aussi un sacré talent d'écoute avec les auditeurs. Pascal Praud, vous les écoutez aussi et vous dialoguez avec eux au programme.
Et ça nous fait très plaisir d'avoir entendu la voix d'Isabelle Langer. Oui. En direct de Roland-Garros.
Parce que ça veut dire que les beaux jours reviennent aussi, en général, quand on entend
Isabelle. Exactement, et là, avec 8 jours de décalage, donc j'espère que Isabelle elle pourra intervenir à 13h30, et puis qu'on pourra parler de Roland-Garros, comme on le fait chaque année. Les autres thèmes, vous les connaissez, est-ce que tout le monde doit se faire vacciner, les éoliennes, les catholiques qui ont été agressés dans Paris, et les 100 ans de la radio.
A tout de suite. La météo, Louis Baudin, elle est presque parfaite.
Presque parfaite. Là, je regarde des images satellites, c'est du grand ciel bleu presque partout. C'est vrai qu'il reste quelques nuages sur les Pyrénées, l'Auvergne ou encore les Alpes. Et ces nuages, en fin d'après-midi, pourront donner ici ou là un orage, donc des compagnies d'averses, ça sur les reliefs. Ailleurs, ça sera ciel bleu toute la journée, avec peut-être quelques débordements orageux du côté de la vallée du Rhône en toute fin d'après-midi. Puis côté température, ça va grimper allègrement cet après-midi. 20 à 24 degrés, pas moins dans la moitié nord et près de la Méditerranée, où là, c'est un petit peu de mal à grimper par rapport aux autres régions de la moitié sud, où nous serons entre 25 et 30 degrés.
Et demain, Louis, ce sera la journée la plus chaude de la semaine, encore plus chaud.
Oui, ça va encore chauffer. Hein. Dès le matin, les températures dépasseront les 10 degrés partout, déjà 14 à 17 degrés dans la moitié sud, et l'après-midi, 25 à 29 degrés. Pas de jaloux, au nord comme au sud,
on dépassera les
25 degrés. Si, vous allez voir, ça va se produire. Alors tout ça avec beaucoup de soleil, et puis quand même une évolution orageuse, peut-être un petit peu plus marquée qu'aujourd'hui, au pied des Pyrénées, sur le Massif central, ou encore du côté des Alpes.
Merci Louis, on adore. À suivre le rappel des titres, Yvette, 13h sur RTL.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Sachez que l'individu a été blessé par balle, qui était recherché depuis plusieurs heures en Dordogne. Le fugitif est neutralisé. À l'instant, Christelle Rebière va nous donner les informations. Mais nous sommes avec Mickaël pour évoquer la procession des catholiques qui a été attaquée dans Paris. Vous étiez présent, Mickaël, dans cette procession ?
Non. Bonjour Pascal. Non, je n'étais pas présent. J'étais en maraude avec mon association que je préside, qui s'appelle Fide Association, et j'en profite donc pour faire un peu de pub. Je n'étais pas présent à cette...
Eh bien, vous nous donnerez votre sentiment sur ce qui s'est passé. Christelle.
Oui, on part tout de suite en Dordogne, hein, du côté de l'Ardin-Saint-Lazare, retrouver Philippe de Maria, donc l'ancien militaire qui était recherché depuis 36 heures maintenant et neutralisé, annonce à l'instant les autorités, en particulier Gérald Darmanin. Ça veut dire qu'il a été blessé, Philippe ?
A priori, il a été effectivement blessé. Thierry Dupin a été donc neutralisé il y a 15 minutes, d'après ce que l'on nous dit ici, selon nos informations. Le GIGN, des équipes Sinofield sont partis très très vite il y a environ 30 minutes, juste après la conférence de presse du préfet et du général Pétiot. Le général Pétiot qui gère ici l'ensemble des structures, l'ensemble du dispositif. Donc l'homme qui était recherché depuis hier matin a été neutralisé il y a environ 15 minutes. Je rappelle qu'il a été vu pour la dernière fois hier matin. Il avait tiré sur des gendarmes et également sur le nouveau petit ami de son ex-conjointe.
Merci Philippe de Maria. La vaccination pour tous démarre aujourd'hui. Fini les critères d'âge ou d'état de santé, toute la population de plus de 18 ans est désormais éligible. Ça représente 28 millions de personnes supplémentaires. La France doit recevoir 76 millions de doses au mois de juin. Carlos Ghosn entendu au Liban par la justice française. Des magistrats ont fait le déplacement pour interroger l'ancien patron de Renault-Nissan, notamment sur deux fêtes données au château de Versailles ou encore sur des flux financiers avec un distributeur commercial à Oman. Zidane a finalement brisé le silence. Il explique dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien sportif espagnol AS qu'il n'avait la confiance nécessaire de ses dirigeants pour construire quelque chose à moyen ou long terme avec le club.
Pascal Praud,